Bon, déjà, merci de votre invitation. Et faire une conférence sur Niepce à Châlons, c'est assez délicat. Il y a des gens qui sont déjà très, très instruits et très doctes dans ce domaine. Il faut que je les mette plus près.
Comme un rocker.
Ah bon, oui.
Non, non, comme ça.
Comme ça?
Oui, oui, oui. Dans l'axe.
C'est pas joli.
C'est pas confortable non plus, non?
Comme un rocker.
Alors, déjà, faut que je, avant de commencer, il faut que je cite mes sources, c'est-à-dire où est-ce que j'ai pris tout ce que je sais, et je ne sais pas tout. Sur Niepce, c'est sûr que si on n'avait que les brevets, les notices des brevets, on n'aurait pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est très très flou, c'est rédigé de façon très volontairement, très ambiguë, voire fausse, tellement ces gens se méfiaient de l'espionnage. Et ils avaient vraiment trop peur qu'on leur prenne leurs idées. Et leur... Donc, on ne saurait quasiment rien de Niepce si on n'avait que ça. Heureusement, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, c'est de, les deux frères, parce qu'ils étaient deux frères, se sont écrits, ont été séparés pendant 10 ans, et se sont écrits 2 à 3 fois par semaine pendant 10 ans, ce qui fait qu'on a une correspondance assez considérable. Et justement, ils se décrivent toutes leurs expériences, leurs travaux, et on sait ça, donc c'est justement ce livre-là, c'est quelque chose de, c'est un monument de référence donc qu'on fait Manuel Bonnet. Manuel Bonnet, c'est le descendant direct de Nicéphore, et c'est un historien de son aïeul, un historien scrupuleux, très précis, et qui a beaucoup, beaucoup travaillé dans ce domaine-là, avec une rigueur totale. Marinier, c'est un chimiste du CNRS, un chercheur, de très très haut niveau, et dont la spécialité est la chimie sous rayonnement. Et qu'est-ce que c'est que la photographie argentique, sinon de la chimie sous rayonnement? Qu'est-ce qui fait que des photons qui arrivent sur un produit chimique en changent la nature physique? La photo, on est en plein dedans. Donc c'est ce qui l'a amené à s'intéresser aux travaux de Niepce. Et c'est le premier qui a refait, c'est le seul historien qui a refait toutes les expériences de Niepce, en partant de sa correspondance, bien sûr, avec ses produits chimiques, ses optiques, ses appareils photos, ses processus, et qui est arrivé au même résultat. C'est le seul qui est manipulé. Donc, dans une conférence qu'il a faite à l'Académie des sciences à Paris, à l'Institut, il y a 1 an et demi, il a réhabilité Niepce en tant qu'inventeur de la photographie, ce qui n'était acquis que pour les Chalonnais. Et guerre avec, hein. Et là, c'est un moment assez émouvant où il était assis dans le fauteuil de Daguerre, à l'Institut, et à la place de Carnot et Berthollet, avec le secrétaire perpétuel. Enfin bon, on assiste à des moments assez importants. Donc, on a déjà comme base toute la correspondance, non seulement des deux frères, mais de la famille, les actes, beaucoup de choses. Et on a déjà 1600 pages de documentation. Et en fait, c'est la seule référence historique. Beaucoup d'historiens ont déjà travaillé sur Niepce, des biographes, et de Victor Fourque à Potonier, à Paul Jay, le dernier, mais qui ne possédaient pas toute la correspondance existante et qui ont fait beaucoup d'erreurs, d'imprécisions. Donc Marinier a balayé tout ça et a dit « c'est la correspondance que ça, et scrupuleusement ». Il démontre, entre autres, qu'en changeant la virgule dans une phrase, on change le sens de la phrase. Et il s'aperçoit qu'un historien a mis la virgule là, la phrase avait un sens. Un autre l'a mise là, l'a pas mise du tout. La phrase voulait dire autre chose. Il a dit non, Niepce l'a mise ici. Niepce était quelqu'un de très méticuleux, jamais un mot pour un autre. Et il arrivait comme ça à son processus. Alors, on dispose d'une deuxième source très riche. C'est les travaux de Maître Bonnevio, que tout le monde ici doit connaître, je présume, dont le beau-père notaire était le descendant des notaires de Niepce, c'est qu'il a retrouvé dans le grenier, dans ses archives, tous les actes notariés de la famille Niepce depuis 1700 des poussières. Ce qui fait qu'il a fait un travail de synthèse et on a pu reconstituer tout son parcours financier, tous les parcours financiers des Niepce. Et là, on est allé de surprise en surprise. Et donc je vais vous en dire quelques mots et faire une petite synthèse, mais c'est des choses assez considérables. Donc ça permet de mieux connaître la cohérence de leur parcours à cette famille Niepce. Scientifique, humain, relationnel. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte historique. Il ne faut pas oublier que ces gens-là sont nés sous Louis XV, ils ont donc connu Louis XVI, la Révolution, la Terreur, toute l'époque napoléonienne et le retour de la royauté. Donc, à l'époque, il fallait choisir son camp. C'était très lourd de conséquences. Hein. On ne sait plus aujourd'hui, des présidentielles d'aujourd'hui, c'est pas très grave. Donc, on s'est demandé aussi quelles étaient leurs opinions politiques, parce que dans leur correspondance, ils sont d'une prudence totale, hein, ils ne se mouillent pas. Mais entre les lignes, quand on lit, au retour de la royauté, quand on lit leur plaisir, bon, on se dit, oui, ils étaient royalistes, hein, ça c'était évident. Et ça leur a posé des problèmes, notamment à la Révolution. Alors, ma petite causerie va se partager en plusieurs séquences. On va faire un tour rapide de la famille Niépce. On va faire chronologiquement une histoire de toutes leurs inventions. Et on finira par la première, le fameux Pyréolophore, que je détaillerai un peu plus, et dont j'ai la prétention d'être un peu plus spécialiste. Voilà. Alors, la famille Niépce, on connaît l'aïeul, hein, originaire de Saint-Désert, c'est le berceau de la famille, c'est une énorme famille qui a donné beaucoup de branches. Alors, la branche dite de Saint-Cyr, où on va retrouver Abel, dont on a parlé, on va en reparler encore un petit peu tout à l'heure. La branche dite de Sensei, où il y a ce fameux colonel, alors ça c'est un personnage extraordinaire, c'est David Niépce, hein. Vous savez, le collège de Sensei s'appelle le collège David Niépce, donc beaucoup de gens ne font pas trop le rapport. C'est aussi un cousin issu de Germain, comme Abel. Alors ça, c'est un personnage de légende. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une biographie du colonel par Buffon. Et donc, il faut dire que c'était quelqu'un d'important pour que Buffon lui ait consacré une biographie. Et alors là, on découvre des choses, notamment, bon, je suis frustré de ne pas partir là-dessus, mais rien que lui mériterait qu'on s'y arrête très longtemps. La branche, bon, qu'on dit de Ruy, qui a donné Henri Niépce, qui construisait des avions là, au début du siècle à Châlons, et qui a eu deux filles, Jeannine, la fameuse photographe qui est décédée l'an dernier, et Henriette, toujours vivante d'ailleurs, à Ruy, dont la filiation à la famille Niépce n'a jamais été démontrée. Elle est plus que probable, mais jamais personne n'a cherché le rattachement. Et puis la branche dite de Saint-Loup, il y en a d'autres, hein, mais j'ai extrait les essentiels. Donc, où on va retrouver Joseph Nicéphore, on va en parler, et ses deux frères et sa sœur, qui sont donc chronologiquement nés dans cet ordre. Joseph a eu un seul fils, Isidore, enfin, seul fils qui est parvenu à l'âge adulte, il y a eu de la mortalité infantile énormément, et on trouve en descendance directe ce fameux Manuel Bonnet, qui est l'historien et écrivain et avec lequel je travaille souvent. Alors, pour les gens qui connaissent le Niépce, ici c'est assez facile, mais c'est essentiellement Nicéphore, c'est la photo et point final. Hein, et je vous garantis que Niépce, niveau national, il est très peu connu. Le directeur du musée des arts et métiers, ça lui disait un petit peu quelque chose l'autre jour. Hein, tout juste. Hein. Vous êtes sûr, c'est celui qui a inventé la photo oui, je suis sûr. Oui, enfin. Alors, indissociable, les deux frères, Claude, l'aîné, hein, la sœur Claudine, elle a été très vite évacuée de la famille, on n'en a plus parlé, pour une raison précise, elle s'est mariée avec un intellectuel de la Révolution, Jean-Gervais Labène, qui est un écrivain, qui a eu des prix, etc. Donc dans une famille de royalistes, et en plus elle a divorcé, vous vous rendez compte, en 1800. Donc, c'est au point où elle n'est même plus dans l'état civil. Hein. Elle a été complètement évacuée. Il a fallu beaucoup de travail à Manuel Bonnet pour retrouver sa trace et ce qu'elle était devenue. Alors essentiellement, Claude l'aîné et Joseph Nicéphore, entre guillemets. Bon, je vais peut-être rien apprendre à des Chalonnais. Il ne s'est jamais appelé Nicéphore, il s'appelait Joseph. Je n'ai pas le temps de digresser tout de suite. Si par hasard, à la fin de ma conférence, j'avais oublié, faites-moi rappeler pour ce changement de prénom. L'étymologie, d'où ça vient. Claude l'aîné, très important, c'était lui qui dirigeait les recherches, qui dirigeait les travaux, et la soumission de Nicéphore à son frère est totale, c'est un véritable asservissement, il a toujours suivi les directives scrupuleusement, religieusement. Et ça a son importance pour la suite. Alors, ces gens-là... Je vous ai dit que le contexte politique était important, notamment en 1789, quand on est fils de notable. Les parents Niépce se sont immensément riches, des propriétés partout, 193 hectares, des propriétés viticoles, agricoles, très hauts fonctionnaires, avocats, receveurs des impôts, enfin, une immense fortune. Donc, quand on est fils de notable, on est menacé. Donc, que font ces gens-là pour se dédouaner politiquement ? Ils s'engagent dans l'armée. Donc, on retrouve Nicéphore en 1789 dans la garde nationale à Châlons, son frère dans la marine, ensuite Nicéphore se réengage dans une autre branche de l'armée, et c'est là que tout se déclenche. Il tombe dans la marine. Alors, on ne sait pas s'ils ont demandé ou s'ils sont arrivés là par hasard. Et on a fait, dans ces années-là, une campagne en Sardaigne, pitoyable. Enfin, c'est pareil, je ne vais pas m'étendre, mais c'est à reprendre. On a fait des guerres pour des motifs incroyables, enfin, peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et ces deux frères étaient sur un bateau, et il n'y avait plus de vent, les bateaux n'avançaient plus. Et il faut imaginer ces deux frères qui ont un niveau d'études d'ingénieur, hein, l'équivalent d'aujourd'hui d'un niveau d'ingénieur, ils ont fait leurs études chez les oratoriens, hein. Et comme vous le savez sûrement, les oratoriens étaient un ordre religieux qui était très pour les sciences, pro-sciences. Hein. Il fallait tout comprendre, tout savoir, tout analyser, contrairement aux jésuites où vraiment on était latin, grec, littéraire. Et je pense, ça c'est une hypothèse, vous pourrez me contredire, qu'aujourd'hui s'il y a une scission entre les littéraires et les scientifiques, je pense qu'elle vient même des oratoriens et des jésuites de l'époque. Bon, ce n'est qu'une hypothèse. Non, Gilbert, tu as une idée. Et alors, ces deux frères-là, ils ont un niveau d'ingénieur, ils sont sur un bateau qui n'avance pas, et ils se disent, c'est pas possible, il faut qu'on fasse un moteur pour faire avancer ces bateaux. Donc voilà le point de départ. Donc le contexte historique a une importance. Alors très vite, ils se font réformer, surtout Nicéphore, et on a retrouvé chez Henriette Niépce un document, le congé de réforme, bon, qui apparemment n'est pas colossalement intéressant, mais... Si on lit, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit notamment sur la troisième ligne que le citoyen Niépce a la vue naturellement si basse qu'il ne peut distinguer ni même apercevoir qu'avec beaucoup de peine les objets les moins éloignés, etc. C'est-à-dire que c'est la preuve qu'il s'est fait pistonner pour se faire réformer. L'inventeur de la photographie, tout ça parce qu'il ne voyait pas clair. Hein. Donc ça ne manque pas de saveur, hein, et on ne l'a jamais vu ni avec des lunettes, mais... Et ils se retrouvent très vite à cette merveilleuse maison de Saint-Loup où ils ont fait toutes leurs recherches. Alors ils se plaisaient très peu dans leur maison natale à Châlons, rue de l'Oratoire. Hein. Ils détestaient, ils passaient l'hiver, mais alors dès que les beaux jours arrivaient, ils se précipitaient au gras à Saint-Loup. Et c'est là que tout l'essentiel de leurs travaux ont été faits. Alors chronologiquement... On va détailler un petit peu toutes leurs inventions. C'est un petit peu le tiers de mon intervention. Et chronologiquement, la première, c'est ce fameux moteur pour les bateaux. Mais ça, je le détaillerai donc dans le dernier tiers de mon intervention, mais je le situe là pour respecter la chronologie. Ça, c'est une reconstitution à l'échelle 1 de ce fameux moteur qui est à la maison Niépce à Saint-Loup et que vous pouvez voir sur place si vous en faites le déplacement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vois des gens qui étaient là cet après-midi déjà. Donc ils n'ont pas encore soupé de Niépce. Alors, ce moteur, donc dès qu'il rentre à Châlons, 1801, 2, 3, il commence à se mettre au travail. Et en fait, on verra tout à l'heure que ça leur coûte énormément d'argent. Ils investissent, Nicéphore paye beaucoup. Le problème, c'est que quand on était propriétaire, d'ailleurs, ce qui manque pas de saveur, c'est que dans tous les actes notariés ou d'état civil, quand on voit profession, de Niépce, c'est marqué propriétaire. Profession propriétaire. Hein, donc ça situe bien l'état d'esprit de l'époque. Et avant la Révolution, bien sûr, les fermiers payaient leur loyer en fermage, en argent. Et on pouvait donc presser ces fermiers. Hein. Et la Révolution est passée par là. Et a été institué le système de métayage, c'est-à-dire que les fermiers payaient leur loyer avec une partie de la récolte. Ça se fait encore un peu aujourd'hui. Mais quand il y a récolte, c'est-à-dire s'il n'y a pas récolte, on ne paye pas de loyer. Et on parle des règlements climatiques aujourd'hui. Je vous garantis qu'à l'époque, quand on reprend toute la correspondance, on voit qu'il y a des années épouvantables, des sécheresses. 1789, c'est une sécheresse catastrophique. Après, il a plus 3 ans de suite sans discontinuer Il n'y a eu aucune récolte. Donc il faut considérer qu'il ne rentre quasiment plus d'argent dans cette famille Niépce. Alors qu'à leur héritage, quand le père est mort, juste avant qu'ils arrivent ici, ils s'étaient retrouvés immensément riches. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être riche? Alors j'aime bien la définition de Sacha Guitry, qui dit être riche, c'est pas avoir de l'argent, c'est de le dépenser. Et ça, c'est dans le roman d'un tricheur. Mais en fait, oui, bon, on ne va pas disserter là-dessus, mais vous y réfléchirez. On est riche directement ou indirectement. Si on dépense, on crée de la richesse chez les autres, dont l'État qui prend de la TVA, enfin, etc. Dépenser, c'est effectivement, ça crée de la richesse de façon globale. Et la formule qui résume ça, c'est si c'est un délit de faire des chèques sans provision, ça devrait être un délit de faire des provisions sans chèque. Voilà, ça, j'aime bien cette formule-là. Alors, du coup, je disais qu'il n'avait quasiment plus de revenus. L'argent ne rentrait plus, et ce moteur commençait à leur coûter très très cher. Et là, ils commencent à vendre les propriétés, les unes après les autres, pour financer ce moteur. Ils font construire un bateau entièrement en cuivre à Lyon, ils font ramener ici, enfin, ce moteur leur prend plusieurs années. J'y reviendrai tout à l'heure. Comme il manque d'argent, le gouvernement lance des concours. Hein, c'est le siècle des Lumières, les inventeurs commencent à pulluler. Il y a des besoins au niveau national, et le gouvernement lance des concours richement dotés pour toutes les inventions possibles. Donc les deux frères Niépce se jettent sur toutes ces inventions, sur tous les concours que va lancer ce gouvernement. Alors, dans les multiples inventions, on manque notamment de colorants. Donc Niépce plante du pastel, qui est une magnifique fleur jaune, et il trouve un procédé chimique pour en extraire l'indigo, hein, bleu, donc qui donne un peu les couleurs de jean, hein, donc. Mais son procédé n'est pas retenu parce qu'il faut planter trop de pastels, le rendement n'est pas suffisant, quelqu'un a trouvé quelque chose de mieux que lui. Il y a un blocus continental, on manque de coton. Donc, là aussi, concours pour trouver des fibres et faire des tissus. Alors, comme ils sont très instruits, ils apprennent qu'une plante qui s'appelle l'Asclepia syriaca, qui ne vient pas du tout de Syrie, contrairement à ce que son nom dit, qui est très riche en fibres, ils en plantent partout dans Saint-Loup. Nicéphore se met au travail, il retrouve tous les procédés pour extraire les fibres d'une plante, etc. Et il arrive à extraire une fibre, et on a, dans la collection là, de la maison Niépce, ça venait de Janine Niépce, ça, on a des chaussettes en asclépia tricotées par Madame Niépce. C'est un tissu merveilleux, ça, et très souple, très doux, mais pas de chance, le blocus continental se lève, le coton arrive, il est moins cher que l'asclépia, l'invention tombe à l'eau. Et ils ne gagnent toujours pas d'argent. Alors, autre problème, on manquait de fécule. Donc, ils se font un peu botanistes, ils plantent des giromons, c'est une variété de courge à forme un peu bizarre. Nicéphore trouve un procédé chimique, là aussi, pour extraire la fécule du giromon. Ah, merveilleux, mais son invention n'est pas retenue, on ne sait pas pourquoi, mais on peut dire a posteriori que si ça avait marché, on l'aurait retrouvé dans la correspondance. Hein. Donc, visiblement, ça n'a pas débouché. Qu'est-ce qu'ils inventent encore? Ah oui! La fameuse draisienne, ben c'est l'invention du baron Drey, d'où son nom. Mais le baron Drey, sa draisienne, elle était fixe. Donc Nicéphore dit que ce n'est pas très pratique pour prendre les virages, donc il invente le guidon. Hein, le guidon tournant, et il invente la selle réglable à hauteur pour les gens plus ou moins grands. Il s'en procure une, il la modifie. C'est celle qui est au musée Niépce, hein, l'original est au musée Niépce. La draisienne du baron Drey n'existe plus. La plus ancienne draisienne existante, c'est celle de Nicéphore qui est au musée, à Chalon. Ah, encore toutes des inventions. Les pompes de Marly. Donc, à Marly-le-Roi, pour ceux qui ne connaissent pas, dans une boucle de la Seine, depuis Louis XIV, on avait implanté des pompes qui devaient remonter l'eau de la Seine pour alimenter le château de Versailles, mais sur au moins 200-300 mètres de hauteur, il y avait une grosse dénivellation. et il fallait alimenter, je crois, 64 000 mètres cubes par jour. Enfin bon, c'est vraiment une grosse, grosse machinerie. Ces pompes-là sont obsolètes, elles tombent en panne. Le gouvernement lance un concours pour trouver un système pour remonter de l'eau à des hauteurs assez importantes. Carnot leur dit, mais utilisez votre pyréolophore, poussez de l'eau, enfin mettez des clapets, etc. Et ils disent, non, on va chercher un autre système. Et ils inventent le multiplicateur de pression, qui est quelque chose d'assez révolutionnaire, et qu'ils appellent la pompe hydrostatique. Alors, n'en déplaise aux profs de physique, je ne veux pas faire trop court de physique. Depuis Pascal, on sait que l'effort qu'on a sur un piston, ben, il est égal à la pression multipliée par la surface du piston. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas trop dur, même pour des littéraires. Et si on a une pression grand P assez importante, mais sur un petit piston, on aura le même effort qu'une pression petit P là en bas sur un plus gros piston. Ce qui fait que bizarrement, ils découvrent que ce système-là est en équilibre. Si on construit ça, ça reste en équilibre, puisqu'on a le même effort en haut et en bas. Et ceci, bon, proportionnel. Donc leur intérêt, ce qu'ils voient là-dedans, c'est qu'on a une colonne qui peut être d'autant plus haute que le petit piston a un petit diamètre. Allez, je vous fais grâce des équations. Ce qui est intéressant, c'est que si on provoque un déséquilibre, c'est-à-dire que par un système de clapet, on arrive à tirer ce piston vers le bas. Là, on est en déséquilibre. La force en dessous, elle est plus grande que l'effort au-dessus. Donc, qu'est-ce que fait le système naturellement ? Il remonte tout seul. Donc, il suffit qu'il trouve un système de clapet pour arriver à faire un déséquilibre et créer une espèce de mouvement oscillant vertical. Alors, le problème, c'est quand le piston descend, il faut que la colonne haute ne descende pas. Donc, ça, c'est très simple. On met un clapet et quand il descend, hop, ça se ferme. Donc, on maintient en hauteur la colonne. Mais il suffirait d'ouvrir sur le côté pour que quand ce piston descend, voilà, ça se remplisse en même temps. Et ce qui fait que... si on remonte, et vous voyez qu'au-dessus, hein, on va faire remonter la colonne de la course du piston. Voilà, je vais vous le faire marcher en continu. Donc voilà ce qu'ils découvrent. La pompe hydrostatique avec deux clapets et deux pistons. Ils sont tout heureux, ils disent « ça y est, on va gagner le concours ». Ils arrivent à Paris à l'Académie des sciences, Carnot les reçoit. Elle leur dit « ben c'est trop tard, Napoléon a décidé de mettre une machine à vapeur ». Donc ce qu'ils avaient oublié dans toutes leurs inventions, c'est qu'il y avait déjà des lobbies. Et comme ils étaient des provinciaux et méfiants, eh ben, ils sont passés à côté de toutes ces informations et ils se sont fait avoir sur toute la ligne. Alors, des lobbies, des machines à vapeur, c'était épouvantable. Hein. C'était un lobby financier, un lobby politique, un lobby scientifique. Ils étaient infiltrés partout, ces gens-là, à l'Académie des sciences. Ce qui fait que chaque fois qu'il y avait un projet, de moteur notamment, on mettait une machine à vapeur. Et les Niepce étaient court-circuités. On ne voulait pas entendre parler. Alors que les rapports de Carnot étaient plus qu'élogieux. Les grands physiciens de l'époque avaient parfaitement compris que leur principe moteur était bien supérieur en rendement aux machines à vapeur existantes. Donc, entre autres, ils ont encore inventé d'autres choses, et pas une seule de leurs inventions ne leur a rapporté un seul centime. Et je vous ai dit que les finances commençaient à manquer et qu'on vendait le capital. Et alors, chronologiquement, la dernière invention, c'est la photographie, et celle, il s'est fort tout seul, ça. Parce que Donc le brevet du pyrolophore, c'est 1807, par Napoléon. Ils avaient emprunté de l'argent, et la caution, c'était, bon, on va vendre le brevet et on va gagner. Il y a des besoins en motorisation partout, on va vendre des moteurs, etc. Donc on leur prêtait volontiers de l'argent, les notaires notamment. Et en 1817, à force de tergiverser et de se faire avoir, le brevet tombe dans le domaine public, 10 ans, donc plus vendable. Donc là, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Et là, Claude décide de partir en Angleterre pour vendre ce brevet aux Anglais. Le gouvernement anglais avait la même démarche de financement d'invention. Et donc Claude part en Angleterre, 1817, bon, 16 à Paris, 17. Il avait des autres idées en tête. Il essayait de faire une machine qui démontrerait le mouvement perpétuel. Une énorme machine avec des rouleaux, un mouvement alternatif, un mouvement circulaire. Aujourd'hui, c'est facile de rigoler, de dire « non, c'est pas possible », mais à l'époque, c'était pas plus utopique que le moteur. Et ça, ça engloutit des fortunes. Et Claude, en Angleterre, ben, réclame de l'argent, de l'argent. Et Nicéphore, ici, à Saint-Loup, ben, fait des emprunts, vend toutes les propriétés, l'auberge de Claude, etc. Fait des emprunts. Quand le premier emprunt, 40 000 francs de l'époque, il faut multiplier par 3 pour avoir le prix en euros à peu près, enfin, d'après Paul G, hein, mais c'est à l'ordre de grandeur. Quand l'emprunt arrive à terme, ben, il n'y a rien pour rembourser. Et deuxième malheur, le fameux cousin Abel, dont on parle depuis le début, avait fait un emprunt, le brave Nicéphore se porte caution. Abel se casse la figure, et il faut rembourser l'emprunt du cousin également. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Ils empruntent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils empruntent ben, une somme qui boucle les deux précédents, plus une petite marche pour manger. Hein ? Et on est en 1800 et des poussières, et il meurt en 1833. Donc vous voyez que les 33 dernières années de sa vie, ça a été une course en avant, une fuite en avant, d'emprunts qui bouchaient les précédents, et un gouffre financier qui se creusait derrière lui, considérable. Hein. Bonnevio a même montré que les notaires avaient fait des fautes professionnelles en prêtant sans caution, enfin sans l'actif, enfin plus des sommes supérieures à l'actif. Hein. Ce qui le fait bondir, évidemment, c'est pas lui qui ferait ça. Et... Alors, c'est là qu'on a toute cette correspondance entre les deux frères. Et on a toutes les lettres de Claude à Nicéphore, enfin beaucoup de lettres, qui lui disent en substance « Bon, c'est presque au point, mais j'attends que ce soit parfait pour présenter mes inventions au gouvernement, avoir l'argent, etc. On est tout près de la fortune, on est tout près de la gloire. » Et on a toutes les lettres de Nicéphore, très prudemment, de façon très prude plutôt, qui dit « Oui, t'as raison d'attendre que ça marche parfaitement, mais dépêche-toi parce que ici, ça... » Ça tire, hein. J'ai retrouvé pas longtemps l'ardoise qu'ils avaient chez le boucher, chez le boulanger. C'est par milliers d'euros. Hein. Et on sait qu'ils récupèrent 2 pièces de vin de jambes comme fermage et qu'ils donnent ça au boulanger pour boucher un petit trou, pour que le boulanger continue de leur donner du pain. Hein. On en est à ce point-là. Et ce phénomène-là dure 10 ans. Pendant 10 ans, on a ces lettres. Et en 1828, Nicéphore se dit « c'est pas possible, il se passe quelque chose, il faut aller en Angleterre voir ce qui se passe ». Donc il part avec sa femme, il part en Angleterre. Il avait travaillé un petit peu sur la photo, donc il emmène quelques exemplaires, dont le fameux point de vue du gras. Et là, il découvre son frère qui était devenu fou, qui agonisait, qui avait perdu la raison complètement, et qui délirait totalement. Et en fait, il n'avait rien fait du tout pendant les 10 ans. Donc il faut s'imaginer à la place de Nicéphore qui prend cette nouvelle-là. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien de vendu, plus d'argent, tout s'effondre. Au passage, il essaye de vendre quelques procédés photographiques aux Anglais, mais là, la malédiction niepce, elle continue. Il ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Quand il s'adresse aux bonnes personnes des sociétés scientifiques, elles meurent 2 jours après. Enfin, donc il revient dépité, et au passage il laisse quelques épreuves photographiques, dont le point de vue du gras, à ses logeurs en Angleterre. Donc il revient à Saint-Loup, de nuit, pour ne pas être vu, et il s'enferme dans la maison du gras, et là, ben, Claude meurt quelques jours après, quelques mois après, et là, ben, il part tout seul sur la photographie, parce qu'il était libre, Claude ne lui disait plus ce qu'il fallait faire, il était libre des recherches, ça coûtait pas très cher, les produits chimiques, les plaques, les supports. Donc il a pu travailler et Claude ne pompait plus d'argent. Et alors, quelques mots sur la photographie, dont je ne suis pas du tout pas spécialiste. Ces premières photos à peu près réussies, elles ressemblaient un peu à ça. Ce sont des négatifs, bien sûr. Et il avait donc découvert que le chlorure d'argent, vous savez tous que l'argent noircit à la lumière, surtout le chlorure d'argent. Donc s'il en enduisait un papier sensible et qu'il mettait ça sur sa chambre obscure, au bout de quelques heures, il ressortait une épreuve qui ressemblait à ça. C'était un négatif, bien sûr. Tout ce qui avait pris la lumière était devenu noir. Tout ce qui n'avait pas eu lumière restait blanc. Le problème, c'est que ce négatif n'était pas pérenne. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, le processus chimique continuait à se faire. Et la photo, elle noircissait complètement. Donc la photo n'était pas inventée parce qu'elle n'était pas fixée. Elle était simplement révélée, mais il n'était pas tout seul. Hein. Beaucoup de chercheurs en Europe en étaient à ce stade-là. Là, on est en 1816. Hein. Et il se dit, je fais fausse route. Je n'obtiendrai jamais une photo directement en sortant de l'appareil photo, parce que quel que soit le procédé que j'utilise, le processus va continuer, elle va noircir dans le temps. Et le déclic vient du moteur. C'est là que ça paraît bizarre. Alors, en faisant des recherches de carburant pour son moteur, il avait commencé, on en parlera tout à l'heure, avec la poudre de lycopode, qui est une spore de fougère, et en disant « je fais fausse route », il travaille sur un nouveau carburant pour son moteur qui s'appelle le bitume de Judée. Alors le bitume de Judée, comme son nom l'indique, on le trouvait en Palestine, ça flotte sur la mer Morte. Hein, c'est un produit pétrolier, mi-pétrole, mi-charbon. Il s'en procure, alors non pas en Palestine, mais dans l'Ain, à Seyssel, à côté d'Annecy, où il y a une mine qui est encore en exploitation aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les routes de Haute-Savoie ont été les premières qui ont été bitumées en France, et avec ce fameux bitume de Seyssel. Puis dernière remarque étymologique, la mer Morte dans l'Antiquité s'appelait la mer Asphaltine. Donc vous voyez, l'étymologie de tous ces termes, bitumé, asphalté, etc., hein, ça vient de là. Alors, en travaillant sur ce bitume de Judée en tant que carburant pour le moteur, il s'aperçoit que ce bitume de Judée, alors il y a une légende qui a été transmise par des historiens qui est absolument fausse, c'est que le bitume de Judée blanchit à la lumière. Et il se dit que bien sûr, il aurait mis un cache et puis il aurait obtenu une image. C'est absolument faux. Le bitume de Judée, il change de comportement chimique à la lumière. Alors, les travaux NIEPS consistent à découvrir que la partie de bitume de Judée qui a reçu le soleil n'est plus soluble dans l'essence de lavande. Bon, il faut le trouver, ça, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Niépce était quelqu'un de très méthodique, il notait toutes ses expériences, et il est arrivé à cette conclusion indiscutable. Et il s'est dit, mais voilà, c'est le déclic, la solution, elle est là. C'est ce qui lui a permis de débloquer ses recherches infructueuses sur la photo, sur la fixation des photos. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissoudre du bitume de Judée, alors là, je schématise, hein. Il va dissoudre du bitume de Judée dans l'essence de lavande. Il va en mettre, ça ressemble à un vernis, il va en mettre sur une plaque sensible, il va mettre ça dans sa chambre obscure. Au bout de 2 à 3 jours de temps de pause, il ressort. On ne voit rien. Mais le processus chimique, il a eu lieu. Donc s'il retrempe ça dans l'essence de lavande, tout ce qui n'a pas reçu de soleil va être dissous, et tout ce qui a reçu de soleil va faire un vernis définitif. Donc il met ça sur un support, il verse de l'acide, et là où il n'y a plus de vernis, ben, l'acide attaque. Hein, donc, notamment si c'est un support de pierre, c'est de la lithographie. Donc, les premières photos, les lithographies, ce sont des photos en relief avec des profondeurs plus ou moins importantes d'attaque acide, suivant la quantité de lumière qui a été reçue. Donc, si on met de l'encre d'imprimerie, on peut arriver à tirer des images, etc. Donc, voilà le début et voilà comment il arrive, là aussi avec des procédés à l'iode, à faire des photos au bitume de Judée qui seront les premiers positifs de l'histoire. Caractéristique des photos au bitume de Judée, c'est ça. Il y a un trait, vous voyez, qui traverse tout là. Vous avez une idée de ce que ça peut être ?
L'objectif qui est cassé ?
Non, non. C'est la trajectoire du soleil.
Ah.
Et on a 3 jours de temps de pause. Donc, et en fonction de l'épaisseur du trait, on peut savoir le nombre de jours de temps de pause. Parce qu'à chaque fois, l'écliptique se décale un petit peu. Donc, elles peuvent parler. Alors, ces photos au bitume de Judée, c'est 1824. C'est 8 ans après les premiers négatifs au chlorure d'argent. 8 ans de travail de chimie acharné pour arriver à ces premières photos au sens propre du terme. La sensibilité, on l'a calculée, elle est 1/1000000ème d'ASA. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les pellicules argentiques à 100 ASA sont déjà très lentes, et lui, il était au 1/1000000ème d'ASA. Hein. Par contre, la définition et sur des photos, on peut compter les tiers d'une maison, c'est-à-dire la définition de la photo est du même niveau que les meilleurs appareils actuels. Donc, l'inconvénient, c'était le temps de pause. Donc, c'est à ce moment-là qu'il s'associe avec Daguerre. Daguerre vient travailler à Saint-Loup 3 étés de suite, et ils travaillent d'arrache-pied tous les deux. Ils ont créé une association, et ils travaillent essentiellement à réduire les temps de pause. Bon, je ne vais pas trop me pesantir là-dessus. La seule photographie de Niépce qui soit parvenue jusqu'à nous, c'est celle-ci, c'est le point de vue du gras, et c'est celle qu'il avait emmenée en Angleterre en allant voir son frère, qui a été retrouvé en 1953 seulement, par un historien anglais, qui a cherché son parcours en Angleterre, qui a retrouvé les logeurs, qui a retrouvé la valise, qui a retrouvé tout, et la plaque était dedans. Et elle est aujourd'hui rachetée par les Américains à Austin, au Texas, hein, dans un musée de la photographie, très bien conservée. Alors, ça n'est pas la première photo de l'histoire, c'est la seule qui soit parvenue. C'est la plus vieille qu'on connaisse, et ça, c'est 1827. Hein. Donc là, ça a fait partie des travaux de Marinier, mais je ne veux pas trop détailler, je ne suis pas assez spécialiste. Il a pu déterminer le jour, l'année et le lieu, l'endroit, l'angle de prise de vue d'où a été prise cette photo. Alors, il y avait une deuxième photo qui est assez sujet à polémique, qui s'appelait « Table servie ». Beaucoup de monde en parlait. Et là aussi, il y avait bagarre entre spécialistes pour savoir si c'était Nieff, de Daguerre, de Talbot, d'autres photographes. Et là aussi, les travaux de Marinier ont permis de lever le doute, c'est-à-dire qu'il a trouvé, on ne voit pas bien sur ma photo, de trouver un témoignage d'un Écossais qui a vu le fils de Nicéphore, qui lui a montré cette épreuve, et qui a dit « L'émulsion doit être très fragile parce que d'un coup de doigt, on a effacé le bouquet. » Mais on ne le voit pas bien sur ma photo. Bon, par contre, celle qui est à Saint-Loup, on le voit très bien. Le coup de doigt a enlevé le bouquet du vase et donc ça permet d'identifier ça. Donc ça, c'est un physiotype, c'est un procédé qu'il a mis au point avec Daguerre à Saint-Loup. Et c'est une photo de Niépce. L'original a été perdu, a été cassé aux arrêts métiers lors d'une expertise au début du siècle, mais il restait des copies. Donc voilà, de façon chronologique, un tour assez rapide de toutes les inventions. Alors je me recentre un petit peu sur le pyréolophore. Ça, c'est imprononçable si on ne fait pas un petit peu d'étymologie. Alors pyre en grec, c'est le feu. Éole, c'est l'air, bien sûr. Et fort en grec, ça veut dire qui pousse, qui porte, qui transporte. Donc la traduction en français de ça, c'est un moyen de transport. C'est mu par l'air, dilaté par le feu. Ça, c'est ses termes à lui. Alors, le principe du pyrolophore, leur idée, elle est très très simple. Ils se disent, on va associer l'énergie d'une explosion à une propulsion par réaction. C'est-à-dire qu'on va chasser de l'eau derrière un bateau, donc on va créer une explosion dans une enceinte fermée sur un bateau, et puis si on libère la petite porte en bas, le clapet du bas, ben l'augmentation de pression due à l'explosion, elle va chasser l'eau derrière. C'est aussi bête que ça, ben, c'est d'une simplicité enfantine. Leur génie n'est pas tellement dans le principe, mais il est dans l'application concrète de ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour travailler ? On avait quatre plans merveilleux qui sont leur dessin à eux, qui sont dans le brevet, format A2 à peu près. Un dessin de bateau, sans moteur, hein, mais on trouve le tuyau en dessous. Hein, on voit là en bas la tuyère qui va servir à éjecter. Quand on montre ça à des constructeurs de bateaux, ils disent « c'est pas un plan de bateau, ça, c'est n'importe quoi, c'est pas un dessin ». Et on a su après que c'était un bateau en cuivre qu'ils avaient fait. Ils avaient fait fabriquer à Lyon, on a retrouvé l'atelier à Lyon. Donc ça fait partie aussi du prix. On a un autre plan qui représente ce moteur en coupe. Et même, je vous garantis qu'avec ça et la notice, pour comprendre le fonctionnement, on n'est pas clair. Hein. Et notamment, il dit c'est un moteur sans piston. Et puis on voit qu'ici, il y en a un piston, alors on ne comprend plus rien. On prend la notice, et ça, il l'appelle ventilateur, le piston. Bon, après, on a compris, mais on a un troisième plan. Et ce plan-là, il était aussi mystérieux. C'est-à-dire qu'on retrouve la chambre d'explosion, on retrouve la tuyère en dessous, et là, l'eau remonterait dans une espèce de gamelle. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça fait sur un bateau ? Ça peut, au contraire, ça enlève l'effet de propulsion par réaction. Et en fait, on s'est aperçu que c'est monté sur une espèce d'établi. D'ailleurs, la reconstitution est à l'entrée des arrêts métiers. Là, on va l'exposer pour les fêtes de la science. Hein. Et en fait, on s'aperçoit que ça, c'est bien un bidon qui va permettre de recevoir l'eau refoulée. Donc, ce qu'ils ont fait ici, c'est un banc d'essai. Donc, ils inventent la notion de mise au point d'un moteur au banc d'essai. C'est-à-dire qu'ils vont faire refouler l'eau ici, et ici, ils mettent un flotteur en H. Et suivant la hauteur où va remonter le flotteur, ils ont une idée de la puissance de l'explosion. Donc, ils peuvent faire leur réglage. Et une fois que tout ça est à peu près mis au point dans la maison à Saint-Loup, on enlève l'arrière, on met le moteur sur le bateau, et ça doit marcher. Donc ils mettent ça à l'eau en 1806 au Port-Villiers. Port-Villiers en 1800, c'était les chantiers navals de Châlons. Et les gradins qu'on voit au Port-Villiers, c'était les rampes où on descendait les bateaux pour les mettre à l'eau. On avait un troisième plan, bon, qui était un petit peu contradictoire. Et on n'a pas bien compris, on a mis des mois et des mois pour essayer de comprendre, jusqu'au jour où on a pu l'animer informatiquement. C'est-à-dire qu'on connaissait les mouvements des pièces. Donc on a pu animer ça. C'est ce que je vais faire. Et vous voyez, là tout est limpide. Alors, je plaisante, hein. Alors, je vais détailler un tout petit peu, mais pas trop, je vous garantis, pour les gens non mécaniciens, je ne veux pas vous infliger ça. Très schématiquement, le carburant, la réserve de poudre, elle est là. Ici, on a un soufflet actionné par deux ressorts qui va injecter la dose de poudre à l'intérieur de la chambre d'explosion. Au passage, elle va s'allumer au contact d'une mèche, c'est l'allumage, mais c'est une mèche lente, hein, c'est pas un allumage de voiture. Et on va voir tout à l'heure la poudre qui vient exploser dans cette chambre-là. Ici, on va retrouver l'échappement, parce qu'il en faut un, il faut bien balayer les gaz brûlés. Et là, en bas, vous avez la tuyère pleine d'eau, la tuyère d'éjection. Alors, le carburant, je vais passer assez vite. On va voir ça sur des images un peu mieux en 3D tout à l'heure. La petite dose de poudre. Alors, des exemples de leur génie. Comment, il y a des ressorts, vous avez vu, qui vont actionner le soufflet qui va injecter la poudre. Alors qu'est-ce qu'ils font pour ça? L'explosion ici, ils en récupèrent une petite partie, et une petite partie qui va pousser un petit vérin. Le petit vérin qui est à votre droite, et qui se déplace vers la gauche, et qui va comprimer les ressorts. Et ce système se verrouille là où j'ai mis mon losange en rouge. Donc ça reste, c'est une énergie potentielle. Ils ont comprimé les ressorts, c'est verrouillé. Donc il n'y a plus qu'à déclencher et on aura quelque chose. Même chose verticalement. On récupère une partie de l'énergie d'explosion pour remonter un vérin vertical qui va remonter la masse noire. La masse noire remonte et elle se verrouille là, clac. Donc là encore, on a de l'énergie potentielle d'emmagasiner. Alors, pour comprendre globalement ça, bon, ben, on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais il faut avoir cette image-là devant les yeux et puis le regarder, regarder fonction par fonction et, pendant un quart d'heure. Et voilà, on est à peu près au régime de Niépce. Hein. Donc voilà ce merveilleux mécanisme. Je vais le faire au ralenti, s'il veut bien démarrer. On voit la masse qui descend, qui actionne ce levier-là, qui déverrouille les ressorts vont se comprimer, vont pousser le soufflet, la dose de poudre va tomber, etc. Alors, on va comprendre mieux ça quand je vais vous montrer le travail qu'a fait le Gazard. Voilà. Là, on est à vitesse normale. Voilà. Et on est en 1800, hein, n'oubliez pas. Il n'y a aucun moyen technique, il n'y a rien. Alors, je suis à la recherche toujours de ce moteur originel, qui, s'il existe encore, est à Paris, dans une réserve de musée quelque part, mais je le suis à la piste à travers la correspondance. Je n'ai pas exploré toutes les pistes. Il y a très peu de chances qu'on le retrouve quand même. À l'époque, la notion de conservation d'objets un peu historiques n'était pas très développée. Et tout ce qui servait à rien, on balayait et on mettait à la case. Surtout que c'était en cuivre, très lourd. Il s'est passé trois guerres, le prix du cuivre a dû monter pas mal. Et il se peut qu'il ait... Enfin bon, j'explore tout ça. En attendant, on la reconstitue à l'échelle 1. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ça donne une idée quand même de ce que c'était. Alors reconstituer l'échelin, c'est pas évident, parce qu'on a bien les plans. On a ces plans là au fond, mais il ne met pas l'échelle. On ne sait pas si son dessin, c'est un petit jouet comme ça, ou si c'est un truc qui fait 15 mètres de long. Donc là aussi, il faut plonger dans la correspondance, et dans les 1600 pages, et il y a une seule lettre où il y a une indication de dimension. Il dit à son frère, la cuve fait 22 litres. On dit, ça y est, on est sauvé, on a mesuré diamètre, longueur, ce qui fait que par homothétiquement, à 1 cm près, on a pu retrouver toutes les dimensions de l'époque. Alors, en 99, Perben, ayant découvert qu'on avait enfin trouvé le fonctionnement de Spirellophore, qu'on avait compris comment ça fonctionnait, nous dit, puisque c'est si simple, refaites donc un bateau qui fonctionne sur le même principe, hein, bien sûr avec des autres technologies. Et donc, au lycée Niepce, parce qu'à Chalon, on est cerné, hein, quand on s'intéresse à l'histoire des sciences, on travaille au lycée Niepce, on travaille avec le musée Niepce, maintenant à la maison Niepce. On n'est pas venu Niepce, mais enfin, ils s'en foutent de guerre. Et donc, on s'en est servi comme support pédagogique, hein, de conception et de fabrication avec des élèves à tous les niveaux et dans toutes les disciplines, hein, dans beaucoup de disciplines. Et on a fabriqué cette espèce d'engin que certains d'entre vous ont vu fonctionner sur la Saône. On retrouve là les chambres d'explosion, on va mieux le voir dans le suivant, voilà. On retrouva les chambres où on a injecté du gaz, on n'a pas pris du dicopode, on a mis du GPL, mais ça fonctionnerait avec toute substance qui explose. On retrouve ici l'arrivée du gaz, des électrovannes, le système mélangeur air-gaz, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très difficile de faire exploser du gaz et de l'air mélangé. Il faut une proportion rigoureuse à 1% près, si on se trompe d'1%, il ne se passe rien. Hein, la proportion, c'est 94% d'air et 6% de gaz. Si vous mettez 5% de gaz ou 7%, vous ne pouvez pas obtenir ni une flamme, ni une explosion, rien. Ça veut dire que les gens qui font exploser leur maison avec du gaz, ils n'ont vraiment pas de chance. Hein, je vous garantis que... Ou ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de fuites dans beaucoup de maisons et qu'il ne se passe rien. Alors avant de le mettre à l'eau, on l'avait mis sur une remorque, on l'avait incliné vers l'avant, on avait rempli la tuyère d'eau. Et on a fait des explosions à vide, comme ça. Et là, vous voyez qu'on peut, en injectant 1,5 g de gaz dans la cuve, on a projeté une colonne d'eau de 10 cm de diamètre à 40 mètres. Donc ça vous donne une idée, oui, l'intuition de rendement thermodynamique qu'ils avaient à l'époque. Là, on est en plein dedans et on s'en aperçoit parfaitement. Donc voilà encore une autre expérience. Hein. Vous voyez l'eau qui va à plus de 40 mètres... Et là, la remorque, elle avance de 5 mètres avec l'effet. C'est un peu ça, oui. Et quand on a mis ce bateau à l'eau, eh bien, déjà la première fois, le moteur s'est arraché du bateau, il est parti tout seul. Donc il a fallu... C'est pour ça qu'il y a des chaînes ici qui arriment le moteur au bateau, tellement la poussée est importante. Hein, c'est tout à fait colossal. Donc là, on a deux moteurs qui fonctionnent de façon synchronisée, enfin décalée d'une demi-période. Et là aussi, le bateau fait 500 kg. C'est une barque Schneider que M. Bonamour nous a prêtée. Il fait 500 kg, 4 personnes dedans, on s'est trouvé couché au fond du bateau. C'est-à-dire que c'est normal, il y a un rendement extraordinaire. Il n'y a pas de mécanique, c'est-à-dire qu'aucune énergie n'est perdue par frottement, par lancement d'inertie, par thermique, etc. C'est-à-dire la quasi-totalité de l'énergie d'explosion, on la retrouve en énergie de propulsion. Le rendement de ce moteur est proche de 1. Ça veut dire que, alors que sur nos voitures, on est à 0,3, c'est-à-dire les deux tiers de l'énergie, elle part en chaleur et en autre chose. C'est ce qui me fait dire que c'est un moteur d'avenir et pas un moteur du passé. Donc, on avait réussi à le faire marcher difficilement quand même pour cette fameuse inauguration, là où certains d'entre vous étaient. On avait pas mal de monde. Alors voilà l'effet de la poussée dans l'eau. J'ai des petites vidéos, mais à l'époque, notre souci, c'était pas trop de filmer. Ça, c'est des essais dans le canal. Alors, c'est assez épique, hein. On vit dangereusement aussi. Heureusement que nos supérieurs étaient totalement incompétents, sinon ils nous auraient interdit de travailler avec du gaz, des explosions, des élèves. Aujourd'hui, on ne pourrait plus. Hein. Donc là, en bas à droite, Là, on va voir l'eau qui se remplit, hein, l'eau qui va rentrer dans les tuyères qui sont sous le bateau. Voilà, ça glougloute un peu et ça se remplit. Et là, je vais quand même vous prouver que ça a marché, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Voilà un petit peu le résultat que ça donnait. C'est assez... Et étrangement, c'est totalement silencieux. C'est-à-dire qu'une explosion dans une enceinte fermée ne fait pas de bruit du tout. Donc là, on commence à dresser l'oreille en disant on a un argument écologique, on a un argument économique, on a un argument de bruit, enfin de silence. Et plus ça va, plus on pense que pourquoi pas, ça peut être l'avenir des moteurs. Hein. Donc on avait pris une grande grue, là, on avait bouché le quai en face le musée, on avait mis ce bateau à l'eau. Alors, pour continuer les investigations, on ne comprenait pas bien, enfin, c'est pareil, on imagine des phénomènes qui se passent dans des endroits fermés, on ne peut pas les voir. Donc, mon idée, ça avait été de faire une cuve d'explosion transparente en plexiglas pour filmer avec une haute résolution la propagation d'une explosion. Il fallait absolument qu'on ait une combustion rapide, mais pas une déflagration. Donc, le meilleur moyen, c'était d'aller voir. Donc, j'avais fait une cuve transparente. J'avais bien protégé avec du fil de fer pour pas trop prendre les éclats de plexiglas dans la figure, parce qu'on se méfie quand même. Hein. Et puis là, donc vous allez voir, à gauche, la propagation d'une explosion, donc au ralenti, la bougie est ici et l'explosion part de là. Donc connaissant la vitesse... Et voilà, on la voit se propager. Voilà, puis connaissant la vitesse des résolutions de la caméra, on peut trouver le temps... Que met la flamme, le front de flamme, pour remplir tout l'espace. Et du coup, on peut en déduire où il faut mettre des bougies, combien, à quelle distance, pour avoir tous ces phénomènes et éviter les déflagrations. Et deuxième problème qu'on se posait, c'était quel est l'impact sur l'eau d'une explosion. Est-ce que ça gicle partout, on va noyer la bougie, l'allumage. Donc là, on a fait un zoom sur la partie inférieure, là. Donc ça, c'est la colonne d'eau qui est là. Et vous allez voir arriver, voilà, le front de flamme, donc au très très grand ralenti. Et on voit l'eau, en fait, qui descend très gentiment. Hein. Ça veut dire que le champ de pression est absolument uniforme, même sur des phénomènes très 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 courts. Donc c'est un sujet d'investigation tout à fait considérable. Alors l'avenir maintenant. Je vous ai dit que c'était un moteur que je voyais d'avenir. Et un de mes fantasmes, ça serait de construire des éléments modulaires comme ça, avec en rouge des chambres d'explosion, donc tout ça c'est des tubes, et horizontalement des tuyères d'expulsion. Ce qui fait que si on en met plusieurs les unes à côté des autres, l'avenir d'un moteur comme ça, c'est évidemment d'être multi-motorisé, hein, comme dans nos moteurs de voiture, on a plusieurs cylindres, et qu'en fait, la coque... soit le moteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moteur et une coque, les deux sont intimement mélangés, et bon, c'est pas un dessin de bateau, mais enfin, c'est juste un principe, il n'y a pas de technologie là-dedans, il n'y a qu'un principe. Et c'est un nouveau concept de conception de motorisation fluviale, pourquoi pas. Donc j'en suis à la recherche de sponsoring, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire la quête en sortant. Et étrangement, je disais à Gilbert que je trouve des investisseurs, des gens qui sont prêts à mettre 300 000 euros dans la... mon problème, c'est qu'ils veulent des retours sur investissement. Donc, comme disait notre bien-aimé Chaperon, mes coronaires avant tout, je ne veux pas m'amuser. Et pour ne pas perpétuer la malédiction Nieppe, je ne vais pas hypothéquer mes biens et mes maisons pour... parce que si je le sais, je serai crédible et j'aurai les gens... m'aiderait à financer. Voilà, donc je vous invite à voir tout ça dans la maison Nièvre de Saint-Loup, où sont organisées des visites assez régulièrement. Alors ce moteur, il a été complètement oublié, il a été enterré par les lobbies des machines à vapeur. Il n'a même pas servi de base pour réinventer le moteur par la suite. Le noir Baudrochat, c'est 1860, c'est 60 ans après. Donc il a été réinventé une deuxième fois. Il a par contre été exhumé en 1925 par Werner von Braun et par Clerget en France, c'était l'équivalent. Clerget était le Werner von Braun français. Il a créé la SNECMA, donc c'était quelqu'un d'important. Et les deux, en parallèle, sans se connaître, se sont dit, mais au lieu d'éjecter de l'eau et de faire un réacteur à eau, si on chassait de l'air, on fait du feu, on augmente le volume de l'air, on le chasse derrière. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé les premiers réacteurs pour V1, V2, pour Werner von Braun. Et puis donc les réacteurs de la SNECMA pour Clerget et Rateau. Voilà, puis moi qui ai enseigné le génie mécanique, voilà une maxime que j'aime bien, Clerget, qui est ingénieurs motoristes français. Voilà, je vous remercie de votre attention.
C'est super, j'ai coupé, c'est bien. Ouais.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci beaucoup. Donc, je pense que si d'aucuns connaissaient ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent le pyréolophore. Donc, j'ai réussi à le prononcer déjà là tout de suite, mais dans les séances précédentes, pyréolophore. Donc, voilà. Donc, à l'UTB, vous voyez, on découvre des choses que. On est à Chalon. Monsieur Brulé, j'avais eu l'occasion de rencontrer déjà une fois. Donc, moi, je vais penser que c'était intéressant de pouvoir en faire profiter. Les adhérents. Donc, y a-t-il des questions ? Donc, aujourd'hui, il est dans votre garage, si j'ai bien compris, ce magnifique bateau.
Oui.
Ça explose à quelle cadence ? Combien à la minute ?
Alors, Nièvre, c'était une explosion toutes les 5 secondes.
Oui.
Et il l'appelait le gros brutal. Donc, vous comprenez tout de suite pourquoi. Et là, avec les deux moteurs synchronisés, on arrive à une explosion toutes les 2 secondes. D'accord. Ce qui fait qu'on a une poussée assez lissée et quelque chose d'assez homogène. Je voulais vous montrer quelques secondes un travail qui a été fait par un ingénieur des arts et métiers, une reconstitution en imagerie, en image de synthèse 3D. C'était un projet de fin d'étude d'un gazard de l'an dernier. Voilà. Donc voilà le distributeur de poudre. Hein. Et comment il distribue la bonne dose de poudre, vous voyez ? Il a fait un fond tournant, et voilà, et quand il fait tourner le fond tournant, il y a un trou excentré, et quand le trou excentré passe en face d'un trou fixe, la bonne dose tombe. Donc vous voyez déjà les idées de synchronisation qu'il a, voilà, des idées d'imagerie de Nieps. Qu'est-ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est le
problème de l'allumage.
L'allumage, nous y voilà.
Permet de mettre la
main voyez, sur le passage. Et regardez bien, il synchronise la rotation d'une lumière et la mèche lente qui rentre à l'intérieur au moment où la poudre passe. Parce que s'il la laisse tout le temps, l'explosion va souffler la mèche. Vous voyez, la poudre s'enflamme et part exploser dans la cuve. Il a des idées comme ça assez extraordinaires.
J'avais lu, moi, que justement, et ça paraît assez évident en regardant le mécanisme, c'est un héritier des fabricants d'automates. Le pire, c'est un automate, c'est pas une machine, c'est un automate. Donc il y a des leviers, des clapets, des cliquets de partout. Donc c'est tout à fait dans la lignée voilà, des poupées animées qui étaient très à la mode au XVIIIe siècle.
Voilà. Donc là, vous avez le système. Vous avez vu le système de soufflet qui actionné par les deux ressorts.
Tiens, ça me donne une idée, ça, parce qu'il est prévu. On n'a pas encore fixé la date, donc nous aurons une visite de l'Institut de l'Image cette année. C'était pas marqué dans le catalogue, dans la plaquette. L'objectif étant de voir la nouvelle version du film Circuit, dans le cadre de Cluny 2010. Mais disons, on voudrait aller un petit peu au-delà, donc ce serait une conférence technique pour expliquer un peu les technologies de l'image virtuelle. Et comme illustration, bien sûr, le film sur Cluny, on pourrait leur demander de nous montrer quelques autres exemples, par exemple celui-là, puisque je suppose qu'ils l'ont encore dans leurs archives.
Oui, d'ailleurs, on va vous montrer le film en entier au Fête de la Science à partir de samedi et dimanche, dans le hall de l'ENSAM.
Donc,
j'en ai extrait
je rappelle que ce week-end, c'est la Fête de la Science, donc il y a des manifs dans toutes les classes et dans tous les amphis, dans tous les ateliers de l'IUT. Il y en a même tellement qu'on nous a éjectés ce matin pour les cours de langue. Ils avaient oublié de me prévenir. Mais enfin bon, ça c'est... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour aller voir de la science, hein? On a décalé le cours d'anglais, le premier cours d'anglais d'une semaine. Et donc, je pense au printemps, on aura cette séance à l'Institut d'Images. Voilà. Oui.
Pourquoi Bicéphore ?
Bicéphore. Ah, bien.
Oui. Alors là aussi, c'est un travail d'historien. C'est-à-dire que si on prend les actes d'état civil à sa naissance et jusqu'en 1887, c'est Joseph Niépce, et on a une lettre du 30 décembre 1887 où il signe Nicéphore, Joseph Nicéphore. Et là, on s'est dit, il s'est passé quelque chose. Donc, en enquêtant, on découvre qu'il était enseignant à Angers, chez les oratoriens d'Angers, Joseph, à l'époque. Et donc, Manuel Bonnet va à Angers, retrouve les archives, retrouve la trace de Joseph Niépce à l'oratoire, et découvre qu'on l'avait viré de sa fonction de professeur, on l'avait rétrogradé comme pion. Pourquoi ? Parce qu'il enseignait trop avec des images, il faisait des ombres chinoises, il y avait déjà quelque chose. Donc ça, c'est déjà un premier élément historique sûr. Mais en cherchant un peu plus, on s'aperçoit... Alors, il faut chercher côté Nicéphore. Qui était Nicéphore ? Et Saint Nicéphore, c'était un patriarche de Constantinople qui avait jeté une anathème sur l'iconoclasme. En 887, c'est-à-dire 1000 ans avant. C'était le 1000e anniversaire de l'anathème contre l'iconoclasme de Saint Nicéphore. Il avait été martyrisé et canonisé pour ça. Et là, on n'a pas de preuve absolue, mais enfin, c'est quasi évident que par clin d'œil envers Saint Nicéphore, et il a voulu un petit peu se moquer des oratoriens... avec une anathème un peu leur anathème à eux un peu ridicule. Donc en même temps c'est une belle histoire. Bon, je pense que on peut presque l'affirmer comme vérité historique. Bon, il y a les deux faits. Et puis il y a une telle coïncidence que ça ne peut pas être autrement.
Pourquoi les motoristes ne sont pas plus intéressés à ça étant donné le rendement de ce type de moteur ?
Ah ben alors là. Les motoristes à qui on montre ça disent « c'est trop simple pour qu'on y ait pensé ». Et maintenant, on est dans la complexité absolue.
Ouais. Je peux peut-être donner ma thèse là-dessus, c'est que quand quelque chose existe, même si c'est compliqué et que ça marche, ça bloque toute innovation qui paraît intéressante et qui a l'inconvénient majeur de ne pas exister, par définition. Je vous en citer un exemple de ce processus, c'est la machine à écrire. La disposition des touches sur la machine à écrire AZERTY à IOUP, si ma mémoire est bonne, enfin en France tout au moins, ça paraît complètement loufoque. Et en particulier, les lettres qui sont très fréquentes sont sur les extrémités du clavier. On se demande quel est l'abruti qui a inventé ce clavier. Eh bien, tout simplement, dans les vieilles machines à écrire, vous vous souvenez qu'il y avait des leviers. Et on s'est débrouillé de telle façon que, avec la structure de la langue française, les touches qui pourraient provoquer des croisements des leviers par une frappe simultanée ne se produisent pas. Donc on s'est débrouillé de telle façon que ça ne croise pas les leviers. Donc ça partait d'un bon sentiment. C'est pour ça que des lettres fréquentes comme le A est complètement en haut à gauche, alors que c'est une lettre fréquente en français. C'est pour ça qu'en anglais c'est le Q est beaucoup plus fréquent en anglais qu'en français. Mais maintenant, comme l'ensemble des dactylos du monde entier a appris à taper avec ce clavier de fou, même avec des ordinateurs, on garde le clavier, disons, ancien, qui vient d'une technologie qui était mécanique. Et il y a eu des tentatives multiples, comme le pyrolophore, de mettre à ABCD ou je ne sais pas quoi, hein, ou alors de mettre les lettres les plus fréquentes au centre ou à main droite, et puis de mettre les lettres les plus rares sur la périphérie. Et ça marche très bien avec des gens qui sont entraînés. Ça n'a jamais marché parce que tout le monde s'est tapé avec le clavier de fou. Hein. Et voilà un exemple qui explique qu'une technologie compliquée mais qui existe tue une technologie qui est simple mais qui n'existe pas. Voilà, c'est l'effet de prééminence de l'acquis, enfin du préexistant.
Voilà. Bah plus les phénomènes politiques, les lobbies. Alors,
on en rajoute dessus, oui, parce que
multiraisons.
On veut pas faire du nucléaire parce qu'il y a des moteurs. Mmh. Enfin bon, il y a aussi ça. Vous savez que toutes les organisations, là je parle pour moi là, c'est presque un flash. Les organisations écologiques qui ont démarré aux États-Unis ont été financées à 100% par les groupes pétroliers. Pour contrebalancer le nucléaire qui était naissant, puisqu'on a dit dans les années 50 aux États-Unis que le nucléaire, ça paraissait évident, ça allait reprendre le relais du pétrole. Et donc, Greenpeace, d'abord, ça a été commencé par les Américains, et ensuite, c'est les Soviétiques qui ont c'est marrant. Les Soviétiques, pas du tout pour eux, mais c'était parce que ça foutait la pagaille dans les pays occidentaux. C'était ça l'objectif. Donc l'URSS, jusqu'à sa crainte, était le financeur majeur de Greenpeace. Aujourd'hui, ben, ma foi, il n'y a plus d'URSS. Donc, mais maintenant, il y a une sensibilité écologiste plus large, donc c'est plus croix-rouge, on va dire. Mais c'est toujours largement financé par des services secrets divers et variés de différents pays pour semer une certaine pagaille. Je ne serais pas étonné que l'Arabie Saoudite finance en grande partie aujourd'hui Greenpeace pour des raisons, disons, de perturbation des pays occidentaux. C'est plus efficace que le Hezbollah, beaucoup plus efficace.
Voilà, ben je suis ravi de ne pas vous avoir endormi. Parce que s'il y a des gens qui parlent pendant leur sommeil, c'est le propre des conférenciers que de parler pendant le sommeil des autres. Voilà. Oh ben bien sûr,
Vos vidéos, elles sont dans des répertoires.
Ah oui, elles sont à part. J'ai pas pu les mettre en PowerPoint parce que je perdais de la qualité.
Oui. Non, mais ça fait rien. On n'aurait qu'une image fixe, mais disons, au moins on aura le.
Oui. Machin, si vous avez votre.
Oui, j'ai la clé. Ah ben,